ensemble sur Calade.
Histoire de femmes, femmes d'histoire.
Et pour ça, on retrouve le duo Geneviève et Héloïse. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour amis de la Calade.
Bon Geneviève, de qui vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui n'est pas une illustre inconnue. Ouais. Je vais vous parler de Néfertiti.
Très bien, voilà. Néfertiti.
Donc c'est... une grande pharaone de l'Égypte antique. 1370-1333 avant Jésus-Christ pour les dates. Hein. Mmh. Ça, on situe un peu le cadre. Est-ce que tu sais sur Néfertiti ? Qu'est-ce qu'on dit, Héloïse ?
Bah, que son mari s'appelait Akhenaton.
Ah oui, c'est ça, Akhenaton. Et il s'est toujours appelé Akhenaton ?
Non.
Non, en fait, c'est un couple qui est resté célèbre, parce que du coup, au départ, Amenophis IV,
ouais.
Qui était le fils d'un très très grand pharaon qui a régné plus de 40 ans en Égypte et qui a du coup installé le pays dans la prospérité. Et bien du coup, Amenophis IV, quand il arrive au pouvoir, il est jeune, hein, il a 12 ans.
Ah ouais ?
Ouais, quand même, hein. Mmh. Sa fille, son épouse a 17 ans. Donc ce jeune couple prend le pouvoir et du coup, en fait, il a envie de tout chambouler.
Ouais.
Voilà, donc c'est fini le règne polythéiste. On passe au règne monothéiste autour d'Aton. Et on pense qu'en fait, Néfertiti, qui était une jeune fille très éduquée, très instruite, très intelligente, eh bien, elle va beaucoup l'inspirer en fait, dans la mise en place de cette religion monothéiste qui est la première... grande expérience monothéiste de toute l'histoire de l'humanité. Et en fait, elle va apparaître comme étant, du coup, une vraie figure d'autorité, une grande prêtresse dans ce culte d'Aton. Et on va même écrire, alors tous les égyptologues ne sont pas d'accord là-dessus, que c'est peut-être même d'ailleurs le premier pharaon, puisque à la fin de sa vie, du coup, Akhenaton, du coup, l'aurait nommé co-pharaon et qu'elle aurait régné en attendant, du coup, que son fils... puisse prendre le pouvoir, puisqu'il était trop jeune au moment où Akhenaton meurt.
Pharaon, pour moi, c'était exclusivement des hommes.
Et oui. Et d'ailleurs, au moment où elle va être... Alors, encore une fois, on est dans la supposition, hein, mais au moment où elle va être nommée pharaon, elle va changer de nom pour avoir un nom masculin. Parce qu'en fait, ouais, c'est super intéressant comme histoire, parce que du coup, en fait, il va y avoir un grand changement dans l'Égypte qui n'est pas très populaire. Parce que les gens, ils sont quand même très attachés à leur dieu et qu'on leur dise du jour au lendemain, finalement, il n'y a plus qu'un seul dieu, ça leur va pas bien.
Oui, puis c'est bizarre.
Hein, ça fait un peu bizarre. Hein. Ouais. T'es d'accord, Héloïse ? C'est un peu bizarre.
C'est bizarre, oui.
Oui, voilà. Et donc, pour que ça soit plus populaire, eh bien, ils vont travailler sur l'image du pharaon et de la pharaone.
Et c'est lui qui devient le dieu. Enfin, c'est le pharaon, c'était un dieu sur Terre, il me semble.
C'était un dieu, ouais. Exactement. Mais là, il devient, en fait... Le principal prêtre de ce culte à Aton, au dieu soleil unique. Et donc, la prêtresse devient donc Néfertiti. Mais ils vont, tous les deux, dans la manière dont ils sont représentés, avoir à la fois des traits masculins et des traits féminins, parce que le pharaon doit être montré comme étant à la fois le père et la mère de tous les Égyptiens. Et ouais. Même chose pour Néfertiti.
D'accord.
Et Néfertiti, elle est morte à quel âge ?
Alors, Néfertiti, tu vois, Héloïse, je suis désolée, je n'ai pas de réponse très précise à te donner. On ne sait pas bien, en fait. Il y a des gens qui pensent qu'elle a été éloignée du pouvoir parce qu'elle prenait trop d'importance à la cour et qu'elle aurait disparu, en fait. On n'a jamais retrouvé sa tombe. On suppose qu'elle a été retrouvée dans une cache et on a intitulé cette momie The Young Lady et qui est effectivement très belle, mais qui n'a pas été retrouvée en très bon état. Donc, il y a des datations qui pourraient laisser supposer que c'est elle, mais on n'en est pas sûr à 100%.
Et elle a eu des enfants, Néfertiti ?
Ah oui, elle a eu 4 filles.
Pas de garçons ?
Et voilà, et là, tu as tout compris.
Ça,
pas de garçons.
Ça, c'est une tragédie dans
pas de garçons, elle est répudiée ?
Elle n'a pas été répudiée, parce que les pharaons avaient plusieurs femmes. Mais par contre, l'une de ses filles va épouser...
Le pharaon ?
Alors, le futur pharaon, qui va être, du coup, son demi-frère, puisque, du coup, Akhenaton va avoir d'autres enfants. Et du coup, Toutankhamon,
ouais.
Hein, quand même, qui est, pour le coup, extrêmement connu, Toutankhamon, en fait, était à la fois le demi-frère de cet enfant et son épouse. Et malheureusement, la génétique les a rattrapés, puisqu'ils ont eu tous les deux des difformités physiques très importantes. Et on pense, d'ailleurs, que... Ils sont probablement morts
De ses difformités.
De ses difformités, ouais.
Un peu Game of Thrones, hein, quand même. J'imagine
un
que...
peu, ouais.
Ouais.
À cette époque, est-ce que tu penses qu'il y a des descendants de Néfertiti ?
Encore aujourd'hui ?
Ah oui, sûrement.
Probablement. On est à quelle époque, justement ? C'était il y a des milliers et des milliers d'années.
Ouais. On est en 1370 avant Jésus-Christ pour sa date de naissance.
Il y a plus de 3000 ans et on arrive quand même à savoir des histoires qui se sont passées il y a 3000
fascinant.
Ans.
Et alors, si je puis me permettre, il y a quand même une petite histoire qui explique que Néfertiti soit aussi connue. C'est parce qu'en fait, en 1912, on a retrouvé un de ses bustes.
D'accord.
Et en fait, ce buste, il est d'une beauté splendide, sublime. Il est encore en très bon état. Il y a encore tous les pigments de peinture qui sont présents et qui, évidemment, montrent sa beauté. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en 1912, en fait, il va y avoir toute une... petite aventure autour de ce buste qui arrive à Berlin, puisque l'archéologue est allemand, alors qu'il aurait dû rester en Égypte. Mais pour autant, les Allemands vont montrer le buste comme étant un trésor d'archéologie, etc.
Ouais.
Et quelques années plus tard, figurez-vous qu'un petit homme brun, Hitler, va du coup découvrir ce buste et il va en faire vraiment... l'égérie, en quelque sorte, hein, qui magnifiait tous les canons de beauté ariens de l'époque. C'est fou, hein ?
Ah ouais, c'est un peu loin du stéréotype arien, pourtant.
Elle était extrêmement blanche, elle avait le cou très fin, elle avait un profil un peu androgyne. Et donc, elle répondait parfaitement aux canons de beauté des années 30 de notre guerre en Europe. Et c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, elle est encore très connue.
Très bien.
Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que Néfertiti, elle a été représentée sur les murs d'un temple dans des chars, des chars de guerre, tirés par des chevaux.
Tu as tout à fait raison, Héloïse.
Bien, merci beaucoup pour ces infos sur Néfertiti. On était dans l'Égypte antique aujourd'hui.
On a un peu voyagé.
Très bien, merci à toutes les deux.
Merci Mathieu.
De rien.
Ensemble sur Calade.